Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Nous sommes au Salon du Livre de Paris cette semaine avec le public français qui est avec nous. Bonjour à tous! Merci d'être avec nous. Bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui, nous allons vous faire vivre cet événement avec des auteurs, des artistes et des surprises. C'est l'événement de cette semaine en librairie, la sortie du nouveau roman de Philippe Claudel. Le membre de l'Académie Goncourt, auteur des Âmes grises et du rapport Brodeck, nous emmène cette fois sur une île imaginaire qui va bouleverser notre regard sur l'humanité. Bonjour Philippe Claudel.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous Philippe?
Très bien, toujours ravi d'être dans la librairie francophone.
On est ravi de vous accueillir, on va parler de ce nouveau roman qui est très attendu. Et nous vous avons aussi donné une carte blanche avec un invité surprise que vous avez choisi.
Oui.
Qui est-il?
Écoutez, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, on se connaît depuis quelques années, c'est un grand acteur populaire, grand metteur en scène populaire, et j'aime ce mot populaire comme il l'aime aussi. Être populaire, c'est être proche des autres, c'est essayer de se faire comprendre, se faire entendre, se faire rire, émouvoir,
et
c'est Gérard Jugnot.
Gérard Jugnot, mesdames et messieurs, bonjour.
Bonjour Gérard.
Comment allez-vous, cher Gérard?
Très bien, Il faut venir à la radio pour entendre des compliments, merci.
Vous avez publié un livre l'année dernière, on en touchera deux mots, Une époque formidable aux éditions Grasset. Vous êtes donc aussi un auteur, rencontre entre auteurs aujourd'hui. Nous recevrons aussi sur ce Salon du Livre de Paris un auteur qui vient de recevoir le prix France-Québec. Son roman est déjà vendu en traduction dans de nombreux pays à travers le monde. Christian Guay-Poliquin vous emmènera dans le froid et dans un endroit isolé avec des hommes confrontés à une sorte de fin du monde. Et puis nous recevrons le groupe L'Indigo qui vient de La Réunion et qui interprétera un titre en acoustique devant le public de ce Salon du Livre Paris 2018.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et comme toujours, des libraires nous accompagnent pour cette émission exceptionnellement. Trois sont en plateau avec nous. Bonjour Dominique Bressou.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez la Suisse. Vous êtes donc ici en France avec nous. On est ravis de vous avoir sur ce beau plateau installé par les équipes de Radio France. Et vous êtes libraire à Boudry dans la librairie Une Petite Prose. C'est ça, toujours ça.
C'est ça, c'est toujours ça.
Pour le Canada cette semaine, c'est Anne-Isabelle Tremblay de la librairie du Québec à Paris qui est avec nous. Bonjour Anne-Isabelle.
Bonjour Emmanuel.
Ravi de vous retrouver. On vous avait déjà reçu dans
une
cette
fois,
émission.
Oui, il y a trois ans pour marquer les 20 ans de la librairie.
Mon Dieu, ça passe trop vite.
Et puis on se reverra peut-être dans deux ans pour nos 25 ans ou avant, c'est j'espère. Ça.
Sans doute. Merci d'être avec nous. En duplex de Bruxelles, en Belgique, c'est Annick Dor qui représente son beau pays. Bonjour Annick.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à la Hulpe dans la librairie de la Mazrine et à distance. Et enfin, nous recevons ici sur ce plateau une libraire francophone installée au Chili, à Santiago du Chili. Bonjour Marilyn Noël.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Vous dirigez la librairie Le Comptoir, donc à Santiago du Chili, et vous êtes la seule librairie 100% francophone de ce pays.
Exactement.
Vous portez donc la francophonie auprès de vos clients, comme ça, qui écoutent la librairie francophone au Chili?
Qui écoute tous les samedis matin à 11h du matin. La librairie ouvre à 11h, j'allume les lumières et j'allume France Inter.
Parfait, donc vous l'écoutez sur France Inter avec le décalage horaire.
Tout à fait.
Et grâce au
depuis
web.
Depuis de longues années.
Bon, écoutez, merci beaucoup. Et cet engagement est reconnu par l'État français puisque vous êtes honoré ce week-end par la distinction Chevalier des Arts et des Lettres.
Voilà.
Bon,
oui,
félicitations.
C'est un honneur. Merci.
Bon, merci d'être avec nous. Bonjour Fawzia Zouhari.
Bonjour Emmanuel.
On vous connaît dans la librairie francophone pour votre roman Le corps de ma mère, qui a reçu le prix des 5 continents de la francophonie en 2016. Vous êtes une auteure tunisienne. Le 20 mars, mardi prochain, ce sera la traditionnelle journée internationale de la francophonie. Et vous allez annoncer au siège de l'OIF la création d'un parlement des écrivaines francophones qui rassemblera une centaine de personnalités.
Effectivement. Alors, l'initiative, je me suis inspirée de ce qui s'est passé en 1993, quand il y a eu un Parlement des écrivains européens. Et ce Parlement avait pour objectif d'aider, c'était les années noires en Algérie, de créer une sorte de réseau, d'aider les écrivains algériens, de faire entendre leurs paroles, et d'une façon générale, c'est une solidarité entre tous ceux qui s'occupent de littérature.
D'accord.
Donc, maintenant, je pense que le temps est pour les femmes, est aux femmes. Et cette ambition que j'avais, ce rêve que j'avais, j'en ai parlé un jour, alors que j'étais invitée à Orléans.
Oui.
Et le maire d'Orléans, Olivier Carré, il a dit « je prends ». Et je trouve formidable que quand les intellectuels proposent des choses en toute liberté, en toute indépendance, qu'une institution, qu'une mairie, qu'une qu'un politique puisse dire oui, je prends. Ouais. Et depuis, donc, voilà, on et est en parti. Train de l'organiser. Voilà. Et en septembre, il y aura la première session du Parlement des écrivaines francophones qui réunira une centaine d'écrivaines qui viendront des 5 continents.
Alors, j'étais là d'ailleurs à Orléans, je me souviens, hein, parce que c'était lors d'une rencontre que j'avais la chance d'animer. Vous aviez lancé cette idée comme ça et ça a eu donc un écho et vous faites votre chemin comme ça. À quoi il va servir ce Parlement ?
À faire entendre par la voix des femmes, pour commencer, vous le voyez bien. Les femmes sont absentes dans les lieux de pouvoir, dans les établissements où on parle de choses essentielles pour notre planète, pour la politique, pour les droits de l'homme. Nous assistons, moi je trouve personnellement, à un recul de la condition des femmes, à des débats d'arrière-garde. Et nous voudrions dire que les femmes, les écrivaines en particulier, il y a des femmes un peu partout qui peuvent s'exprimer, que celles qui sont attachées à la littérature, qui s'expriment par les mots, qu'elles puissent dire ce qui ne va pas, qu'elles puissent avoir une parole sur les affaires du monde, sur l'écologie, sur des phénomènes comme l'immigration, mais aussi créer aussi ce même réseau pour les femmes, faire en sorte que des femmes puissent éditer un peu plus facilement, que des femmes puissent avoir des visas, parce que vous savez qu'il y a des pays, quand on veut inviter une écrivaine en France, c'est pas possible. On voudrait marrainer en quelque sorte que les grandes écrivaines puissent chaperonner des petites écrivaines, et on rendra hommage aux grandes éditrices aussi.
Bien, qui peut y participer? Qui peut être candidat? Est-ce qu'il y a des auteurs qui nous écoutent et qui ont envie peut-être de participer à ce Parlement, qui peuvent le faire?
Il n'y a aucun problème, c'est un Parlement libre et toute femme qui a écrit quand même, qui a des œuvres publiées.
Bien sûr, bien sûr.
Parce qu'on peut avoir l'intention d'écrire et laisser ses manuscrits dans le tiroir. Il faudrait quand même qu'il y ait des femmes qui aient publié et qu'elles parlent français. Parce que c'est ça aussi qui nous réunit, c'est la langue française. La langue française, parce que c'est aussi une langue qui véhicule pour nous certaines valeurs. Et donc, voilà, on aimerait qu'elle soit là, qu'elle nous exprime au monde.
Voilà, belle initiative, un club francophone, hein, à l'image de ce que nous faisons avec cette émission, Fawzia Zoari. Le Parlement des écrivaines francophones sera donc lancé le 20 mars à Paris, au siège de l'OIF. Le public d'ailleurs qui est à Paris peut y assister et je serai avec vous pour lancer cette initiative. Merci beaucoup, Fawzia Zoari.
Merci à vous.
À noter que les éditeurs ont d'ailleurs jusqu'au 15 avril prochain pour proposer leurs auteurs pour le prix des 5 continents de la francophonie, prix que vous avez eu d'ailleurs, Fawzia. On s'est connus comme ça, toutes les infos sur francophonie. Merci, à bientôt. Philippe Claudel est avec nous à l'occasion de la sortie de son nouveau roman, L'archipel du chien, paru aux éditions Stock. On dit que c'est votre nouveau grand roman populaire, Philippe, depuis L'enquête en 2010, livre dont nous avions d'ailleurs parlé dans cette émission. Votre roman se déroule sur une île qui n'existe pas et un jour... Sur la plage de cette île, une vieille femme va découvrir 3 corps inanimés. 3 jeunes hommes, noirs, d'à peine 20 ans. Et on se demande comment ils sont arrivés là.
Bien sûr, c'est une île qui n'existe pas, mais qui ressemble à beaucoup d'autres îles réelles, celles-là, qui sont essaimées dans la Méditerranée, qui ressemblent aussi peut-être à une île qui serait l'Europe ou l'Amérique du Nord, c'est-à-dire des lieux de richesse, des lieux de confort, qu'on veut entourer de frontières imperméables, qu'on veut hérisser de murs infranchissables. Donc c'est un roman, vous l'avez dit, qui est dans la veine de l'enquête, mais plus encore peut-être des âmes grises ou du rapport de Brodeck, c'est-à-dire un prétexte policier, une enquête, un mystère, un suspense, mais pour nous amener à réfléchir sur des vraies questions actuelles, justement sur ce drame qu'on connaît tous et sur lequel j'essaye d'écrire depuis maintenant de nombreuses années.
Il y a un pêcheur, il y a le maire du village, le curé, l'instituteur aussi, qui vont se retrouver confrontés à cet événement qu'il faut garder secret. Car l'île a des ambitions touristiques, il ne faut surtout pas que l'île ait mauvaise réputation.
Lorsque vous avez une communauté d'hommes qui mènent une vie tranquille, une vie paisible, une vie économiquement préservée, la vraie question quand il y a un élément perturbateur qui arrive, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment réagit-on? Alors certains, avec leur grandeur de cœur, leur humanité, leur bienveillance, voudraient actionner des sonnettes qui s'appellent peut-être la justice, qui s'appellent la décence. D'autres, au contraire, ne voient qu'un intérêt collectif, un intérêt économique, un intérêt touristique. Donc, on a dans ce roman des confrontations autour de ces questions. Que faut-il faire pour continuer à vivre? À quelle bassesse, à quelle compromission, à quel compromis sommes-nous prêts pour justement pouvoir préserver nos vies?
Mais c'est vrai que vous abordez de façon assez singulière le drame des migrants, parce que les habitants de cette île sont confrontés à l'improbable et surtout à la part d'ombre des hommes. Les migrants dérangent, Philippe Claudel? partout où ils arrivent, en fait. Dans cette île préservée, parce que finalement, ils n'ont pas à se plaindre.
Mais ça, si vous voulez, c'est un phénomène qui est nouveau et qui me révolte complètement. La France a toujours été un pays d'accueil, on le sait. Dans les années 70, nous avons accueilli à peu près 50 000 boat people. Ça n'a posé aucun problème, ni démographique, ni économique, ni moraux, rien. Tout s'est fait décemment, tout s'est fait avec cœur, tout s'est fait avec humanité. Aujourd'hui, quelques milliers de personnes frappent à nos portes et on ferme ces portes. Il y a des tragédies qui se déroulent en Méditerranée, il y en a d'autres qui sont réelles dans des régions beaucoup plus proches, je pense à la vallée de la Roya, où des gens sont inquiétés par la justice parce qu'ils ont aidé des migrants. Oui. Le col de l'Échelle, qui est un col qui relie l'Italie au Briançonnais, des migrants ont essayé de passer tout l'hiver, des bénévoles les ont aidés dans des conditions tragiques et dramatiques, c'est tout près de chez nous. Donc il faut quand même faire quelque chose. Et le roman, si vous voulez, sert à alerter des consciences que peut-être les médias ou l'espèce d'avalanche journalistique sur ce sujet-là ne permet pas de secouer complètement. La littérature a son rôle à jouer.
Est-ce que vous seriez prêt à accueillir un migrant, vous ?
Oui, je pense.
Non, parce que vous le décrivez, donc vous l'encouragez finalement, vous dites qu'il faut faire quelque chose, mais on a tous tendance à dire ça.
Oui,
finalement, on ne passe pas à l'acte.
Non, on ne passe pas à l'acte. Mais le problème aussi, c'est qu'on ne nous donne pas forcément les moyens de le faire. Je pense à la vallée de la Roya, où il y a des gens, des bénévoles, qui ont été jugés, qui ont été condamnés, alors qu'ils avaient accueilli des migrants. Et on dit, attendez, c'est de l'accueil ou c'est du trafic ?
Bon, on va écouter la BO du roman Philippe Claudel. Vous avez choisi la musique qui illustre votre livre comme dans un film. Cette musique, c'est celle de Rosa Balistreri, une grande chanteuse sicilienne.
Oui, qui est morte en 1990, qui est une grande figure de la Sicile, qui était très amie avec un écrivain que j'aime beaucoup, qui est Chacha, le grand écrivain sicilien, qui écrivait aussi des romans qui étaient à la fois policiers, métaphysiques, réflexifs. Et on écoute cette voix rocailleuse qui, je pense, convient bien à l'ambiance du livre.
Bon, on va l'écouter avec votre invité Gérard Jugnot, qui va lire un extrait de votre roman et qui va nous plonger dans l'ambiance de cette histoire.
Senza sonno
La plupart des hommes ne soupçonnent pas chez eux la part sombre que pourtant tous possèdent. Ce sont souvent les circonstances qui la révèlent. Guerre, famine, catastrophe, révolution, génocide. Alors quand ils la contemplent pour la première fois, dans le secret de leur conscience, ils en sont horrifiés et ils frissonnent. C'est à tout cela qu'était confronté le maire. Il ne découvrait rien qu'il ne pressentit déjà. À quoi bon se mentir ? Il n'était plus un enfant. Il lui fallait se rendre à l'évidence. Parfois, il est nécessaire de traverser les ténèbres pour de nouveau apercevoir la clarté du jour naissant.
Merci beaucoup, Gérard Jugnot, qui lit Philippe Claudel. C'est dans la librairie francophone et nulle part ailleurs. Les hommes ont tous une part d'ombre inavouable, Philippe Claudel.
Oui, moi le premier, évidemment. J'allais dire, parfois, heureusement. Enfin, c'est inavouable, heureusement qu'on l'a en nous.
Ouais.
Mais c'est toujours le paradoxe de la lumière et de l'ombre, du bien et du mal, etc. On est des créatures doubles, on se dépatouille, on se débrouille avec ça, avec cette matière complexe. Et peut-être que l'essence ou l'espoir de la vie humaine, c'est justement de faire apparaître tout ce qui est doré, tout ce qui est solaire, tout ce qui est humain, et de contenir cette espèce de cancer qu'on a tous en nous, qui est prêt à se métastaser et à créer le pire.
Gérard Jugnot, vous avez une part d'ombre, vous ?
Oh, énorme !
Énorme !
Oui.
Ah ouais.
J'ai une part bronzée aussi.
En demi-teinte, c'est ça ?
En demi-teinte. Ouais. Non, mais c'est vrai que, comme dit l'autre, tout n'est pas tout noir ni tout blanc, tout est un peu gris, malheureusement. Et oui, c'est vrai qu'on a tout ça, et puis il y a les paroles et puis il y a les actes.
Oui, c'est ça.
C'est vrai que c'est souvent plus facile de gloser à la coupole ou au flore que de vraiment être dans l'action.
Bon, il y a des libraires qui ont lu votre nouveau roman, Philippe Claudel. Dominique Bressoux pour La Suisse. Vous êtes ici en plateau avec nous. Quel est votre avis ?
Alors moi, j'ai trouvé ce roman absolument fabuleux parce que c'est l'humain vraiment dans tout ce qu'il peut avoir d'exécrable et de moutonnier. Et en fin de compte, l'intelligence et le courage sont morts dès le départ. Il n'y a personne qui sort indemne de ce que vous avez écrit. Et en fait, c'est tellement juste et précis qu'on a l'impression que, en fait, ça a pu exister. Et puis le terrifiant pour moi, c'était l'aspect miroir où on se demande finalement qu'est-ce que moi j'aurais fait.
Ouais,
et
ouais.
C'est vraiment à lire.
Bien.
Très beau roman.
Séduit la Suisse, Philippe. On va voir du côté de la Belgique si ça se passe pareil. Avec Annick Dor, êtes-vous d'accord, Annick ?
Oui, tout à fait. Moi, j'ai trouvé avant toute chose que le roman est très très agréable à lire. J'ai suivi vraiment avec intérêt ce qui ressemble à une intrigue policière faite de rebondissements, de suspense. Et puis ensuite, c'est vrai que je me suis dit que le livre est un condensé de la bassesse humaine. Hein. On a l'impression qu'il n'y a pas un personnage pour rattraper l'autre. Ils sont tous jubilatoirement lâches, égoïstes et mesquins, quitte à devenir même un peu clichés parfois. Mais ça n'empêche, ça nous met face à l'aveuglement de nos sociétés et à cette réaction primitive qui consiste à fermer les yeux pour ne pas voir. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment passionnant.
Bien, merci beaucoup Annick. Et puis il y a ceux qui dérangent, Philippe Claudel, ceux qui veulent connaître la vérité. C'est le cas de l'instituteur qui va faire des recherches pour comprendre comment ces corps ont pu s'échouer sur cette île hostile. Parce que la côte est découpée, enfin il n'y a pas de raison qu'ils arrivent là. Il étudie les courants, il étudie plein de choses. Et comme il dérange, il faut s'en débarrasser. Et on se débarrasse toujours de ceux qui dérangent, surtout dans ce registre-là.
Mais oui, quand on est dans une perspective qui est celle de cet archipel du chien, quand on veut préserver cette vie tranquille, celui qui essaye de gratter, celui qui essaye de fouiller, celui qui détient la connaissance et qui veut en plus l'améliorer, l'étendre, qui veut transmettre le savoir, c'est cette figure justement du savoir et de la connaissance, l'intellectuel au sens large et au sens bienveillant du terme, c'est l'instituteur. Et bien entendu, se pose la question, lui, il est dans sa logique, le maire, il est dans une autre logique, elles sont complètement incompatibles, et le pire va avoir lieu sans doute, puisque justement, il faut taire ce qui ne peut pas être révélé.
Bon, vous voulez l'avis du Canada ?
Ben, avec plaisir.
Avec Anne-Isabelle Tremblay qui est avec nous pour le Québec. Que voulez-vous dire à Philippe Claudel ?
Alors, Monsieur Claudel, j'ai trouvé que ce roman est une grande réussite à tous les niveaux. Tout y est. Vous avez su garder votre équilibre dans une histoire qui aurait pu facilement basculer dans une morale trop appuyée ou dans une allégorie complètement déconnectée du réel. Mais vous nous entraînez dans une réflexion sur le bien et le mal et vous nous amenez à prendre conscience, comme Dominique l'a évoqué, qu'il serait prétentieux de croire qu'en pareille situation, nous ne succomberions pas nous-mêmes à notre part d'ombre.
Voilà, vous avez séduit tous les libraires, Philippe Claudel. On peut applaudir Philippe Claudel, mesdames et messieurs.
Merci beaucoup.
Il reviendra dans ce roman, Philippe. Tout le monde ment, tout le monde salit, tout. Alors que l'insularité pourrait favoriser une micro-société libre, indépendante et intègre, ils ont beaucoup de liberté sur place. Qu'est-ce qui empêche cet idéal ?
Mais je pense que ce qui empêche cet idéal, c'est l'égoïsme. C'est-à-dire que quand on vit dans un milieu refermé, évidemment, cette île est parabolique, comme je le disais tout à l'heure. Quand on est dans une communauté humaine préservée, protégée, où tout va bien, on n'a pas envie que ça aille mal. On n'a même pas envie de partager. C'est-à-dire que, et ça, c'est quand même le travers de notre monde moderne, de nos sociétés contemporaines ultra favorisées. On s'en rend peu compte, peut-être en France, mais on est ultra favorisés. Et on s'accroche à ces privilèges, on ne veut pas les partager, et il y a une progression constante de l'égoïsme qui me frappe depuis quelques dizaines d'années, à mesure aussi que cette religion qui a été celle qui a quand même nourri pendant des siècles la France, je veux parler de cette religion majoritaire qui était le catholicisme, ouais. À un moment elle véhiculait quand même des notions, on peut croire ou ne pas croire, mais ce qui était véhiculé,
les
ce
valeurs,
que moi je
ouais.
retiens, la fraternité, la charité, l'entraide, la bienveillance, l'amour de son prochain, etc. C'était des choses très importantes. Tout cela s'est dilué, s'est dissous, et il ne reste plus qu'un fantasme de l'épanouissement
ouais,
personnel,
ouais.
Un terme que je ne supporte pas, épanouissement personnel. Ouais. Si on est dans l'épanouissement personnel, il ne peut pas y avoir de société heureuse.
Ouais.
C'est pas possible.
Bon, il devient tout rouge, là. Calmez-vous.
Ah, ça m'énerve.
Calmez-vous, Philippe. Vous me faites peur, des fois. Bravo, Philippe. Merci beaucoup. Pour ce... Il est bien, hein, oui, Charles Junior.
C'est un Vosgien.
Mi-homme, mi-sapin.
Voilà, c'est ça.
Mi-homme, mi-sapin. Et d'ailleurs, c'est vrai que la nature réajuste les choses dans votre livre. On ne va pas tout raconter, mais la nature est là pour rappeler l'essentiel aux hommes et pour dire aussi, attention, la
oui.
nature domine, la nature dirige.
La nature est là aussi pour réagir. La nature est là parfois pour menacer, même, dans le livre.
Exactement. Merci beaucoup Philippe Claudel. Votre nouveau roman L'Archipel du Chien est paru aux éditions Stock. C'est un événement littéraire. On vous attend depuis 8 ans sur ce registre du pur roman sociétal qui a fait votre succès. Et puis il y a un livre sur la montagne.
Oui.
Génial récit, interview, entretien.
Avec Fabrice Lardreau.
Avec Fabrice,
aux éditions Artaud, le lieu essentiel. Oui.
Et vous déclarez votre amour pour la montagne.
Bah oui, c'est un amour très ancien déjà. Moi, la montagne m'a nourri. C'est le lieu souvent où j'écris, c'est le lieu où je grimpe, je fais de l'alpinisme, où je me ressource. Et il était intéressant, en discutant avec Fabrice, qui connaît très bien la montagne, de mettre à plat ça et d'offrir au public justement expérience.
On a terminé, Philippe, sur cette partie. Il y a le groupe Lindigo qui s'est installé, regardez, en ce moment même, dans les conditions du direct ici à Paris. Vous restez avec nous, on vous retrouve pour une carte blanche en troisième partie avec monsieur Gérard Jugnot qui est avec nous ici au Salon du Livre de Paris. Autre événement donc pour cette émission spéciale, le groupe Lindigo est avec nous, il vient de La Réunion avec plus de 1000 concerts et 5 albums. C'est l'un des groupes réunionnais les plus populaires. Il porte une musique métissée fondée sur le Maloya, influencée par la musique malgache et indienne. Son nouvel album Comme ça Gaillard vient de sortir. Quatre membres de ce groupe sont avec nous, installés face au public. Voici Lindigo depuis Livre Paris 2018 et c'est dans la librairie francophone. Lindigo.
Les histoires mon sympon la paille mon number one, ça va danser dans le bal Gaïa à soi.
Mon sapo la paille, mon
lamba
one, ça va danser dans le
bal Gaïa. Mon sapo la paille, mon lamba one, ça va danser dans le bal Gaïa. T'as l'air.
Mon sapo la paille, mon
lamba
one, ça va danser dans le bal Gaïa.
Où ça va danser?
Où ça va danser dans le bal Gaïa?
Où ça va danser?
Où ça va danser dans le bal Gaïa?
Où ça va danser?
Où ça va danser dans le bal Gaïa?
Où ça va danser?
Où ça va danser dans le bal Gaïa?
Où ça va danser?
Ça va danser dans le bal Gaïa,
à soi.
Tamo sa pour la paille, mon lamba one, ça va danser dans le bal Gaïa.
Mais dis tamo sa pour la paille, mon lamba one, ça va danser dans le bal Gaïa.
Taléa. Tamo sa pour la paille, mon lamba one, ça va danser dans le bal Gaïa.
Nous l'a dit comme ça, tout le monde est content. Comme ça, maman et Gaïa.
Comme ça, tout le monde est content. Comme ça, Mama et Gaïa.
Nous l'a dit comme ça, tout le monde est content. Comme ça, Mama et Gaïa.
Et Diallo. Comme ça, tout le monde est content. Comme ça, Mama et Gaïa.
Mais dis-toi, mon sapo la paille, mon lamba one. Ça va danser dans le bal Gaïa. Assoi.
Comme ça, pour la paille, mon lamba one. Ça va danser dans le bal Gaïa.
Mais dis-toi, mon sapo la paille, mon lamba.
Applaudissements pour l'Indigo, le son de la Réunion, ici au Salon du Livre de Paris, pour la librairie francophone magnifique Comme ça Gaillard, dans cette version acoustique interprétée avec toute la générosité et la couleur de la Réunion. Merci beaucoup Olivier, la devise de l'Indigo c'est quand tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas.
Ça même.
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut rester fidèle à ses racines. Il faut savoir d'où on vient pour réussir dans la vie.
Ah ben oui, c'est important. Sinon, le sac il est vide. C'est l'histoire des grands-parents, des grands-papas, grands-mamans. Et quand t'as ça en toi, ben tu peux aller vivre où tu veux, faire le tour du monde. Tu retourneras toujours là où tu veux.
Eh oui. Bon, voilà. C'est un Maloya moderne que vous jouez. Il rend hommage aux luttes de vos aînés. Rappelons que le Maloya est un art engagé qui est par ailleurs classé par l'UNESCO depuis 2009, patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
Ah, oui.
Donc il y a Daniel Warraud qu'on connaît bien.
Daniel
ici.
Warraud, Gamon Lélé, Firmin Viry.
René Lacaille aussi.
René Lacaille. Voilà, maintenant tous les tontons. Hein.
Tous les tontons.
Voilà, le style maintenant, là, on est là sur France Inter avec vous là.
Mais merci tout le monde, merci Azot.
Hein France Inter, la RTS, la RTBF et Radio-Canada. La Réunion est une île métissée, un modèle de mixité, un formidable mélange qui prouve au monde entier, finalement, que le racisme et la discrimination sont des absurdités. Quand on va à La Réunion, on s'aperçoit que tout le monde se respecte, se côtoie, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion.
Voilà, il y a le respect de chacun. Ton voisin peut être hindou, l'autre des malgaches, l'autre des africains, l'autre des comoriens, l'autre des maorés, l'autre des chinois, l'autre des musulmans, on a longtemps de respect chacun de ces jours. Quand il y a la marche le fait, ben on respecte, respecte les hindous.
Ouais, c'est ça.
Quand les musulmans, il faut leur dire qu'on respecte. Quand le catholique, période de là, le carême en ce moment, ben tout le monde respecte, ils ne vont pas faire les cérémonies. Voilà, il y a le respect dans chaque. Et ça, il faut garder à La Réunion. Nous, on transmet ça dans notre message aussi, de vivre ensemble et le respect de chacun. C'est très important.
Dans les textes aussi, hein, dans cet album, comme ça, Gaillard, c'est le titre aussi de l'album, il y a ce titre Saison. Vous évoquez vos racines, vous écrivez et vous chantez Je suis né là-bas, au fin fond de Panyandi, là où il y a plein de traditions. C'est où et c'est comment Panyandi?
Panyandi, c'est un petit village. Bon, moi, c'est Obélix, c'est moi le plus costaud dans le village.
C'est
bon.
Obélix.
C'est un petit village. Non, pas Obélix. Voilà, un petit village tranquille. Il y a 60 maisons. Et 60 maisons et tout le monde, on vit avec comme ça. Ça fait des décennies, c'est comme ça. Et là, je raconte les saisons qu'il y a.
Ouais.
Les saisons des guêpes, les saisons des tangs, c'est les hérissons. La saison de la marche sur le feu, la saison du cabar, qui est le maloya. Et c'est un petit village, un monde à lui tout seul.
Un monde à lui tout seul. Dans « À mécontent », vous dites « N'oublie pas tes racines, ton histoire. Il ne faut pas en avoir honte, mon ami. Nous sommes les enfants de La Réunion. Arrêtez de rabaisser notre façon de parler. Notre sang est de la même couleur. »
Voilà, exactement. T'es mais pas mal, t'es.
Ça va?
Oui. Ah ouais.
Bon,
souvent, mais des fois, on a honte de parler la langue maternelle, la langue des parents, la langue des anciens, ou la tradition des anciens. C'est tout ça, mais planter une manioc, pour manger la manioc, ou planter de la tomate, les jeunes, ils veulent plus trop.
Eh oui.
Là, ils ont honte, on va salir les mains, là, c'est les manicures, ou je sais pas, moi, tu vois.
Alors qu'il faut rester là-dedans, bien sûr.
Voilà. Bon. On peut bien être actuel et pas oublier ces traditions.
Bien sûr. Merci beaucoup, l'Indigo. Merci infiniment. Vous pouvez applaudir l'Indigo. Merci. Votre nouvel album, Comme ça Gaillard, est disponible. Vous serez en concert à Paris le 21 mars au New Morning. Gros succès ici au Salon du Livre de Paris. Merci et comme on dit à La Réunion, tiens bon l'ARCPA.
Merci. La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Vous écoutez donc la librairie francophone installée cette semaine au cœur du Salon du Livre de Paris. Nous recevons à présent un auteur qui va beaucoup faire parler de lui à travers la francophonie. Bonjour Christian Guay-Poliquin.
Bonjour Emmanuel.
Merci beaucoup d'être avec nous. Votre roman Le Poids de la Neige a décroché le prix France-Québec, mais aussi le prix du gouverneur général au Canada, prix prestigieux. Les droits de votre livre sont déjà vendus dans de nombreux pays. Le Salon du Livre, c'est un rendez-vous important pour un auteur francophone comme vous ?
C'est ce qu'on m'a dit.
Et alors, le résultat, ça donne quoi?
On arrive tout juste, donc on voit. Mais je suis là avec le sourire, bien sûr.
Ouais, ça vous saoule un peu, tout ce monde, tout ça, non?
Ah, on est content de voir qu'un livre peut vivre sa vie sans nous, donc on peut épauler un peu la vie du livre, on rencontre les lecteurs, c'est un beau moment, bien sûr.
Bon, votre histoire se déroule dans un futur proche, l'électricité est devenue rare, se déplacer est devenu compliqué, il y a des vigiles, des milices, c'est le début de la fin d'un monde?
C'est le début de la fin d'un monde. Certes, ce n'est qu'une panne d'électricité, hein, faut rappeler ça. Donc, la panne d'électricité, il n'y a pas de tsunami qui vont balayer les villages côtiers, il n'y a pas de zombies qui vont prendre les chevilles des gens pour leur croquer après ça la jugula. Donc, il n'y a rien de ça. On joue avec les codes de la fin du monde, mais ce n'est qu'une panne d'électricité qui, bien sûr, fait effondrer certaines de nos manières de faire, certaines de nos institutions, donc certains de nos réflexes qu'on a bien intériorisés et nous livre donc simplement aux relations humaines. Et donc, on revient à certains fondements d'une vie que nous partageons tous.
C'est vrai qu'on fantasme un peu quand on lit votre livre, on se dit, tiens, c'est la fin du monde. Les zombies, j'ai pensé, figurez-vous. Vous voyez, on est influencé par les séries débiles qu'on voit régulièrement à la télé. On se dit, qu'est-ce qui va se passer? Et non, c'est très calme, c'est très doux. Votre personnage a juste eu un accident de voiture en retournant dans son village natal et il va se retrouver coincé, finalement, le temps de sa convalescence. Il rencontre Mathias, un homme d'âge mûr qui lui aussi est coincé là-bas et qui va être chargé de s'occuper de lui. En fait, ils sont bloqués par la neige et le froid et il va falloir qu'ils s'entendent coûte que coûte. C'est ça la difficulté.
Exactement. Donc, la panne d'électricité et l'hiver me permettent de faire une prise d'otage et donc de faire en sorte que mes deux personnages, que tout oppose a priori, se retrouvent coincés et donc forcés à s'entraider, à s'entendre et donc à survivre ensemble. Mmh.
Vous écrivez « Tu es mon obstacle, mon contretemps et mon billet de retour ». Parce qu'il y a un petit chantage, bon, on ne va pas tout raconter. Peu à peu, les deux hommes vont s'apprivoiser dans cette maison perdue, menacée par le poids de la neige. Ils arrivent à communiquer au bout du compte. On y arrive toujours, en fait.
Bien sûr, c'est l'histoire de toute relation humaine, c'est-à-dire que l'oscillation constante entre la confiance et la méfiance fait en sorte que la relation se construit de manière laborieuse. Donc, on fait quelques pas vers l'autre, après ça, on se rétracte. Et c'est donc l'histoire de leur complicité qui se développe de manière en dents de scie, disons.
Exactement, en dents de scie. Vous écrivez aussi, Christian Guépoliquin, « Nous sommes dans le ventre de l'hiver, dans ses entrailles et dans cette obscurité chaude. Nous savons qu'on ne peut jamais fuir ce qui nous échoit. » Voilà, tout est là, tout le livre est là. On va laisser la parole à nos libraires, si vous le voulez bien. Vous n'êtes pas trop angoissés, ça va? Non. Bon. Belgique, Suisse ou notre libraire francophone du Chili, on commence par qui?
Allons-y avec le Chili.
Avec le Chili. Marilyn Noël, c'est à vous.
Alors là, merci. Merci Emmanuel et la librairie francophone d'avoir mis entre mes mains ce bijou. Imaginez d'abord que c'est l'été là, dans la cordillère des Andes. Donc d'abord, ce fut une lecture très rafraîchissante de ce week-end. Ouais. J'ai adoré vraiment ce huis clos, cette ambiance un peu post-apocalyptique, hein, ces personnages mystérieux mais attachants. L'écriture est très très belle, le rythme est soutenu et la tension est vraiment palpable. Moi, j'attends avec impatience votre prochain roman pour savoir si vous allez enfin rallumer la lumière.
Oui, parce que c'est une suite, hein, déjà. On n'a pas l'impression, mais c'est une suite. Votre personnage était parti déjà à la recherche de son père et peut-être qu'il y aura une suite à celui-ci. On va partir en Belgique, hein, si vous voulez bien, avec Annick Dor. Annick, qu'en pensez-vous?
Oui, alors moi j'ai vraiment adoré ce livre, il se passe pas grand chose et pourtant ben, on se surprend à dévorer les pages, à attendre ce qui va se passer. C'est vraiment, je trouve, un tour de force de l'auteur de nous captiver à ce point. On est littéralement plongé dans un temps primitif où on lutte pour survivre et c'est vrai que le lecteur vit les événements autant que les protagonistes. Pour ma part, je me suis vraiment totalement identifié au personnage, j'ai vécu ce qu'il vivait et je trouve que c'est particulièrement efficace.
Bien, carton plein ou pas, je ne sais pas. Christian, on va se tourner du côté de Dominique Bressoux qui est avec nous ici à Libre Paris 2018.
Ça va être carton plein,
c'est
en
vrai
fait.
Hein. Allez-y.
Parce que moi j'ai trouvé que dès les premières pages, on est vraiment plongé dans une angoisse généralisée avec toute cette neige qui s'accumule. Puis on a l'impression vraiment que c'est un linceul pour les deux personnes, les deux hommes enfermés ensemble, qui sont obligés de s'entraider, mais alors qu'ils ne le veulent pas du tout. Et en fait, c'est quand même très... Ce livre est totalement hypnotisant grâce à l'anxiété qui est générée. Et finalement, c'est ce qui permet de comprendre les rapports extrêmement complexes entre ces deux hommes. Il est magnifique.
Félicitations, Christian Guépoliquin, que vous pouvez applaudir, qui a séduit tous nos libraires. Dites donc, bravo.
Merci beaucoup.
C'est un roman sur la survie, Christian. Survie entre les hommes, survie face à la nature aussi. On parlait de la nature avec Philippe Claudel tout à l'heure. S'alimenter est compliqué, mais vos personnages trouvent toujours des ressources. Mathias fera par exemple du pemmican, ou pemmican, je ne sais pas comment
pemmican,
on prononce. Pemmican, ici, oui. Une recette amérindienne. Racontez-nous ce qu'est le pemmican.
Le pemmican, c'est une recette à base de graisse animale et de fruits séchés qui, une fois tout rassemblé et pétri, permet, avec un petit volume, de nourrir une grande quantité de personnes ou une seule personne pendant un long moment. Donc, c'était une nourriture qui était utilisée par les grands explorateurs, soit qui allaient en mer, soit qui allaient en montagne, soit qui traversaient l'hiver, pour avoir de l'essence, pour continuer, donc pour avoir assuré leurs énergies, bien sûr.
Oui, ça ne moisit jamais et il paraît qu'on peut le conserver des dizaines d'années.
Paraît-il, j'ai pas fait l'expérience personnelle. Ça fait juste 3 ans que je l'ai. Non, à la maison, j'ai
gueule. Vous avez mangé du pemmican, vous, non, Gérard Jumeau?
Gérard est nourri depuis l'enfance de pemmican.
Absolument, oui.
Ouais, c'est ça. Bien sûr.
Alors, j'invite à dîner ce soir.
Philippe, tu peux regarder.
Oui, il y a ça ce soir,
c'est
après
ça.
Le théâtre.
Tu vois, il a un petit Roland des bronzés fondus ski, en fait. Ouais. C'est ça. Bon, vous montrez, Christian Guépoliquin, que l'enjeu existentiel pousse toujours vers l'autre. C'est un huis clos qui enseigne la nécessité du partage. Vous êtes d'accord avec ça?
Mais absolument. En fait, le huis clos, et on l'a dit, toutes les contraintes qui font en sorte que les personnages sont obligés de se tourner l'un vers l'autre. On rappelle qu'on existe à partir, bien sûr, du regard de l'autre et que ce n'est que dans l'échange que nous apprenons aussi à entrer en contact avec soi-même et donc dans le rapport à la parole et par définition aussi le rapport au récit, d'où la place de plusieurs micro-récits ou d'histoires qui sont racontés par les différents personnages parce qu'on existe dans l'échange et donc c'est en nourrissant cet échange-là qu'on apprend aussi à faire confiance à l'autre.
Exactement. Merci beaucoup, Christian Guay-Poliquin, mesdames et messieurs, avec ce livre que je vous montre, Le poids de la neige, paru aux éditions de l'Observatoire. C'est le prix France-Québec 2017. On vous souhaite le meilleur pour l'avenir avec ce roman qui fascine déjà un large public. À bientôt, Christian.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. À suivre donc la carte blanche donnée à Philippe Claudel pour la première fois ici au Salon du Livre de Paris. Nous donnons une carte blanche à un auteur. Et vous avez choisi, Philippe, un invité. Cet invité, c'est l'acteur Gérard Jugnot qui est en plateau avec nous. Avant ce grand moment de radio, j'en suis convaincu, Gérard et Philippe, nous allons rendre hommage à votre élégance avec le tout nouveau titre de Catherine Ringer, Un bien bel homme, c'est le titre. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
J'ai envie de toi.
Tout nouveau titre de Catherine Ringer, Un bien bel homme, sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter.
La librairie francophone, Emmanuel Quérade.
Deux bien beaux hommes, donc, sont avec nous ici au Salon du Livre de Paris à l'occasion de la sortie événement du nouveau roman de Philippe Claudel. Nous lui avons donné carte blanche. Il a choisi un invité, c'est le comédien Gérard Jugnot. Voilà, vous l'avez compris. Vous avez tous les deux connu des séances de signature. Avez-vous en mémoire une anecdote personnelle étonnante liée à un Salon du Livre comme ici ou à une signature, Gérard Jugnot?
Oui, enfin moi je suis pas un auteur. J'ai écrit une partie de ma jeunesse parce que oui. Je voulais que ça reste. Une époque formidable.
Une époque formidable aux éditions Grasset.
Tout seul, hein. J'ai pas de, non d'homme de couleur pour m'aider, oui, oui. Mais oui, donc, justement, à Nice, j'avais fait une signature. Il y avait, alors, je signais, puis il y avait deux personnes qui sont restées et qui ont lu le livre devant moi. Ils l'ont, pendant une heure, ils l'ont lu, et puis ils commentaient. Ils disaient, ah oui, ça, c'est vrai, je me souviens. Enfin, ça, et, ah, ça, c'est bien, cette phrase. J'étais stupéfait. Ça dure une heure. Hein.
Et ils ne l'ont pas acheté.
Ah ben non, ah, ben non. Il avait lu.
Philippe Claudel.
Ah, moi, c'est une anecdote. Ça m'est arrivé une fois, j'espère que ça ne m'arrivera plus. Mais enfin bon, c'était pour mon premier livre, Meuse-Loublé, en 99. Il y avait quelques invitations. J'étais tout heureux comme ça que des gens s'intéressent à mon livre. Et je vais en Charente. Je suis accueilli par des gens adorables. Petite association qui avait réuni 4-5 premiers romanciers comme ça. On fait des rencontres. Puis après, il y avait une petite séance de signature. Il y avait quelques personnes qui attendaient. Je signais consciencieusement le livre. Puis il y avait une femme qui avait une quarantaine d'années, qui était en troisième position, qui me regardait, qui me souriait largement. Je lui souriais largement. Je signais. Elle me souriait largement. Je lui souriais largement, etc.
Ça a fini où, ça?
Là, c'est quelqu'un qui a l'air de vraiment très intéressé, n'est-ce pas?
Ma femme est là.
Oui, ma femme est là. C'est pour ça que je le raconte aussi. Ouais. Mais elle était là aussi. Ouais. Mais alors, donc, elle finit par arriver devant moi, cette femme. Et puis, elle prend le livre. Elle me regarde avec son magnifique sourire. Et puis, elle me dit, j'ai une question à vous poser. Comment on peut écrire une merde pareille?
C'est pas vrai.
Je dis pardon. Oui, oui, je vous demande, comment on peut écrire quelque chose d'aussi nul? Alors moi, très poli encore, je dis, écoutez, on peut pas plaire à tous les lecteurs. Mais non, je veux que vous m'expliquiez comment on peut écrire une merde pareille. Alors ça a duré quelques minutes, et puis à un moment quand même, tu rappelais que j'étais Vosgien, le Vosgien parfois est un peu éruptif.
Tu l'as explosé. Mais,
ça s'est mal terminé. Mais le plus drôle, c'est que les organisateurs très gênés m'ont appris après que cette femme voulait absolument que je sois logé chez elle pendant la durée de ce petit salon. Donc j'étais à deux doigts de vivre ce que Stephen King raconte dans Misery. Vous avez une lectrice qui torture un écrivain. Voilà,
c'est super risqué comme métier en fait.
C'est un métier dangereux.
Parce que tu avais refusé de dormir chez elle.
Peut-être.
Oui. Ouais, peut-être aussi. Ouais. Bon, Gérard, vous avez donc publié l'an dernier un livre sur vos années splendides. C'était une grande histoire d'amitié. Vous fonctionnez comme ça au coup de cœur, comme avec Philippe Claudel. On va raconter après comment vous êtes rencontrés.
Oui, enfin c'est des ça. Donc je voulais raconter un petit peu comment parce que. Maintenant, avec l'âge, on me demande toujours, tiens, vous connaissez Thierry Lhermitte? Oui, ça fait 50 ans, quoi. Donc, j'avais envie quand même de raconter tout ça, ne serait-ce que parce que ma mémoire tient encore le coup, pour peu de temps encore, mais, et puis pour mon fils, pour mon petit-fils, un temps révolu. C'était assez troublant et assez marrant d'écrire, parce que moi, j'ai co-écrit beaucoup de scénarios des films que je réalise, mais j'avais jamais fait l'expérience du papier, c'était assez étonnant.
Bon, on a retrouvé quelques sons de vous qui vont faire forcément plaisir au public. Si vous n'en pouvez plus, vous bouchez les oreilles, Gérard, mais nous on aime toujours autant, surtout quand vous êtes en crise ou même plaintif.
Orphelin à 6 ans, j'ai été spolié de tous mes biens par un notaire véreux, Maître Fourte. Après, j'ai été refusé comme pilote de ligne à cause de l'orthographe. Expliquez-moi pourquoi il faut savoir mettre un seul aile à allumette pour piloter un avion.
Bah parce qu'allumette ça prend deux ailes comme les avions, tête de con.
De toute façon, c'est ma faute, hein. c'est tout ma faute.
Mais qu'est-ce que ça peut nous foutre que ce soit ta faute, pauvre con? Fallait pas nous emmener là! On est dans la merde à cause de toi, qu'est-ce que tu trouves à faire? T'es juste bon à te lamenter sur ton sort! T'as rien dans le bide! T'es bon à être le larbin, c'est ta femme, c'est tout ce que t'es bon, pauvre con! On est dans la merde, Chichi, elle nous l'a dit, hein. On va tous crever là! On est dans la merde à cause de toi parce que t'es qu'un con! Et puis t'es cocu! Et t'en demande! Quoi?
Gérard Jugnot, sans de bons souvenirs pour vous, vous en avez marre de les entendre ou ça vous fait
non,
du bien?
Non, mais je les entends peu, vous savez. Ouais. Non, mais c'est quand on avait fait le 3, on était obligé de revoir les deux premiers pour se rappeler un peu du film. Parce que nous, on voit jamais ces films. C'est les gens qui les voient et revoient. Ça change. Non, je suis très heureux de tout ça, mais c'est vrai, je passe pas ma vie à regarder mes vieux films. C'est jeu est un autre. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est plus moi. Hein. C'est, ouais. Même cette voix que j'entends, ça m'étrange. Ça me fait étrange, quand même.
Tournant les choristes avec cette musique qu'on entend, qui nous emmène comme ça. Très émouvant d'ailleurs, hein, cette musique-là, que vous lisez Les âmes grises et vous dites que vous adorez ce livre-là. Et oui. Philippe Claudel entend ça.
Oui,
Du coup, il me propose une pièce que j'ai eu le malheur de jouer. Non, non, c'est vrai que j'avais adoré ce roman, et puis le personnage m'a fasciné tout de suite, parce que la première chose qu'il m'a dit, il m'a dit, oui, quand j'étais en prison, et donc avec sa tête de tueur, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a dû faire ? En fait, non, il travaillait dans les prisons, ouais, il a beaucoup travaillé, et tu donnais des cours de prisonniers, et puis après, il m'a proposé un seul en scène, qui s'appelle Le Paquet, qui était une gageure pour l'art dramatique et pour mémoire, et j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer ça. Alors, malheureusement, on l'a joué parfois dans du théâtre privé. Il aurait fallu aller prévenir un peu plus parce que c'était pas du tout ce quoi les gens s'attendaient. Parce que ça commençait d'une manière assez drôle et puis ça se terminait d'une manière atroce. C'est une sorte de Beckett Light. Ouais, c'est ça. Et j'ai déprimé beaucoup de gens, beaucoup de gens de mon public qui venaient voir une comédie. Et pour ça qu'en ce moment, je joue une vraie comédie avec Isabelle Mergault. Ouais, exact. Des nouveautés.
C'est vrai que.
Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer ça.
Au départ, c'était pas fait pour Gérard Jugnot, Philippe Claudel. C'était pour Jacques Villeray.
C'est-à-dire que quand, sur le tournage des âmes grises, un petit peu avant, je fais la connaissance de Jacques Villeray, et puis il y a quelque chose qui se passe. Enfin, j'étais fasciné par le comédien, on s'entendait bien, on avait des points communs qui étaient la pêche à la ligne, on parlait souvent de pêche à la ligne, et puis un jour, je lui dis, écoute, j'ai envie d'écrire quelque chose, là, une sorte de monologue avec toi, etc. Et je commence un tout petit peu à écrire, et Jacques, malheureusement, meurt quelques semaines plus tard. J'ai arrêté pendant longtemps, et à un moment, des années après, je me suis dit, allez, je vais écrire ça. Pour personne, a priori, et ce personne, quand la pièce a été terminée, je me suis dit, mais c'est pour Gérard Jugnot. Ouais, parce que chez Gérard, il y a ce talent, bien sûr, comique.
Il n'y a personne,
mais il y a ce talent comique qu'on connaît, mais il y a cette profonde humanité, cette fêlure aussi, et cette puissance dramatique qui demandait qu'à s'exprimer.
Et le courant est passé tout de suite avec Philippe Claudel, Gérard Jugnot. Pourtant, tout vous sépare. Vous avez dit, il adore le gibier, alors que moi, j'aime les oursins.
Oui, quel rapport. Parce que quand on répétait.
Mais il boit beaucoup, vous savez, il boit beaucoup.
Parfois, il donne des interviews complètement.
J'ai dit, chouette, on va pouvoir répéter dans le sud, j'ai une petite maison là-bas. Ouais. Et il me dit, ah, non, il faut répéter chez moi, dans les Vosges, à Nancy.
C'est en Meurthe-et-Moselle, les Vosges. Nancy.
Enfin, par là, Vosges, dans l'Est, là où il fait froid.
Ouais, voilà, ouais.
Où c'est beau, mais il fait froid. Ouais. Et donc, mais j'ai appris à découvrir cet endroit.
Mais il a accepté, en plus. Il est venu à Nancy.
Ah oui, je suis prêt à Nancy. Ah oui, mais je suis très.
Il est prêt à tout.
Oui, je suis prêt à tout pour faire plaisir au metteur en scène. Mais non, c'était une belle expérience. Alors, il m'envoie de temps en temps des photos quand il va se promener dans la forêt, en général des obus. Il trouve des obus, parce qu'il y a beaucoup d'obus encore là-bas.
Bah oui. Et vous envoyez des photos de la mer.
Oui, des photos de soleil.
Bah oui, normal. Lui,
après, il m'envoie des champignons vénéneux énormes qui ressemblent à des chibres.
Des chancres.
Oui. C'est très dans ce type est fou.
Oui, c'est vrai que ce type est fou.
Son avant-dernier roman est absolument terrifiant.
Ah, inhumaine.
Inhumaine. Bon, on va vous voir dans un nouveau film, Gérard Jugnot. Vous serez dans l'adaptation du roman de Romain Puertolas, la littérature encore, L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea. Oui. Il est tourné, c'est fait ?
Oui, je fais une participation. Mais voilà. Le vrai problème de ça, c'est que c'était en anglais.
Ouais. Ah, c'était en anglais.
J'en ai bavé. Quand même.
J'imagine.
C'est un chauffeur de taxi en français. Oui. Qui est donc a French accent, but il parle énormément, j'en ai bavé.
Oui, je comprends, je connais ça.
Mais le film est très, je l'ai pas encore vu, mais c'est assez joli.
Vous êtes un très bon
acteur.
Un vrai francophone.
Il paraît qu'il y a déjà un immense succès en Inde du Sud parce que c'est une vedette indienne.
Bon.
Et donc, je vais peut-être être une petite star là-bas.
Bien, on suivra ça de près. Merci beaucoup, Gérard Jugnot, mesdames et messieurs, Philippe Claudel, que vous pouvez applaudir. Merci beaucoup.
Mais je joue actuellement au théâtre.
J'y viens. Regardez, ça va se faire dans deux secondes. Vous êtes venu spécialement.
Bah oui, allez-y, quoi, quand même.
Non, attendez, je fais durer le suspense. Vous êtes donc venu spécialement pour la librairie francophone parce que vous n'êtes pas au programme du Salon du Livre de Paris. Merci beaucoup, voilà, je tenais à souligner ça. Et puis, il y a une pièce, donc, qui paraît. Alors attendez que je regarde. Non, je plaisante. La raison d'aimer avec Isabelle Mergault, c'est au théâtre des Nouveautés à Paris et ça fait un carton.
Il y a plus de place, c'est plein, c'est complet.
Non, c'est pas plein, je suis allé voir pour voir s'il y avait des places, j'ai essayé de réserver, de simuler. Donc vous voyez, vous m'aurez pas. Il y a plein de places et vous jouez encore jusqu'au mois d'avril,
jusqu'à mi-mai et après on reprendra la rentrée parce que ça marche très fort.
Et n'oubliez pas le livre de Philippe Claudel, L'archipel du chien. Merci beaucoup, merci à vous.
Merci.
La la chronique des libraires dans cette plus grande librairie du monde. Tous ensemble pour les coups de cœur et les coups de gueule. On commence avec vous, Dominique Bressou, pour la Suisse, avec un coup de gueule.
Alors, c'est un gros coup de gueule sur les éditeurs qui impriment en gros chiffres le prix en euros sur la couverture de certains livres. D'abord parce que c'est vraiment moche. Ensuite, les clients savent lire les étiquettes. Et puis, franchement, lire Molière 2 euros, moi, je trouve que ça le fait pas.
Ouais.
Mais en plus, tout le monde n'utilise pas l'euro bah dans non. la communauté francophone.
Surtout en Suisse.
Et les Québécois, les Suisses, ben non, ouais. nous pas. Bon. Et puis, on est obligé à chaque fois de dire aux clients qu'on doit leur expliquer que ce n'est pas directement traduisible.
Marilyn Noël, vous avez un coup de cœur, vous, dans votre librairie francophone à Santiago du Chili.
Oui, un coup de cœur parce que malgré notre éloignement, nous travaillons beaucoup en réseau. Nous appartenons à l'Association internationale des libraires francophones et nous sommes aussi...
L'ILF, oui, qui célèbre ses 15 ans d'ailleurs. Bon anniversaire à
l'ILF. Qui fête ses 15 ans cette année, qui est née dans les couloirs de ce salon du livre il y a 15 ans. Et nous sommes aussi jurés pour plusieurs prix littéraires.
Et donc
le prix littéraire libre à nous pour la littérature francophone cette année a été décerné à Glaise de Franck Bouys. C'est édité à la Manufacture de Livres. C'est un très beau roman puissant avec une tension dramatique qui monte à mesure que les rancœurs et les histoires de famille pendant la Première Guerre mondiale dans le Cantal. C'est magnifique.
Bien, Glaise de Franck Bouys. Merci beaucoup, Marilyn. Anne-Isabelle Tremblay, un coup de cœur aussi pour vous.
Oui, coup de cœur pour le dernier roman de Marc Séguin, Les Repentirs, paru aux éditions Québec-Amérique. Marc Séguin se prête ici au jeu de la nouvelle collection de Québec-Amérique, la collection 3, dans laquelle la contrainte est de raconter trois souvenirs qui ont un point en commun. Et c'est quelque part entre la réalité et la fiction que nous rencontrons Ariel, sorte d'âme-sœur de l'auteur, son premier et donc son grand amour.
Les Repentirs, et c'est aux éditions Québec-Amérique, c'est ça?
Merci,
merci beaucoup, merci à vous. Un coup de gueule, Annick Dor pour la Belgique. Ouh là là.
Oui, contre les promotions de printemps, hein, beaucoup d'éditeurs comme Jouvence ou Marabout ou J'ai lu Bien-être proposent 30, 60, 90 volumes sur des thématiques identiques aux nouveautés qui croulent déjà dans nos rayons. Et l'argument massue de dire que ça donne l'occasion de faire du réassort à meilleur marché, ben c'est faux puisque nos rayonnages à la limite coûtent plus cher que leurs conditions promo tout à fait dérisoires. Et surtout, ben ça cache en fait mal la surproduction qui les oblige à des mesures désespérées pour écouler leur stock.
Voilà qui est dit. Merci beaucoup pour cette franchise. Merci Yannick Dor. Merci à vous. Merci à tous nos invités. Gérard Jugnot, Philippe Claudel, Christian Guépoliquin. Vous pouvez encore les applaudir. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. À très bientôt.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici le chanteur Gaël Faure avec un extrait de La Saison.
Vois ces courants qui m'emportent. Ont-ils juré de me perdre? Périls qu'on a passés depuis lors et toutes les routes qu'on a pu fouler, des falaises à gravir.
Fort, La Saison, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet.